France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer les Djinns. Vous savez, ce groupe de jeunes filles issues de la maîtrise de Radio France et qui a connu son heure de gloire au début des années 60. Les Djinns, c'était un peu les compagnons de la chanson au féminin. Et nous avons retrouvé pour vous quatre anciennes chanteuses du groupe qui seront avec moi dans une vingtaine de minutes. En fin d'émission, Jean-Christophe Keck chantera les louanges d'Offenbach et de Roger Roger. Mais commençons, si vous le voulez bien, par remonter dans le temps de Ménilmontant.
Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois, un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille écoles à midinette, chez sa dinette au bistrot, la biblette, lycée, journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, Ménilmontant.
Un petit chef-d'œuvre parmi beaucoup d'autres de Charles Trenet, qu'on fêtera d'ailleurs dans une émission spéciale ici même le 18 mai. Mais je vous l'ai fait écouter aussi cet enregistrement de 1939 pour ce merveilleux orchestre de Valberg dont nous avons beaucoup parlé voici 15 jours avec Serge Elaïc, et j'ai toujours envie de prolonger un peu quand j'entends Valberg. Alors j'ai retrouvé aussi pour vous aujourd'hui cette Popeye symphonie sur les thèmes du fameux dessin animé américain, enregistré donc par l'orchestre de Valberg en 1950.
Thank you.
Toutes les ressources, toutes les couleurs de l'orchestre de Valberg dans cette Popeye symphonie que vous pouvez retrouver justement dans le disque concocté par notre ami Serge Laïc, Valberg et son orchestre qui vient de paraître chez Marianne Melody. Et puis parlons un peu d'opérette, et puisque nous sommes au cœur du printemps, je voudrais vous faire entendre une opérette où il est beaucoup question du printemps, de l'amour. Ça s'appelle « Chanson d'amour » d'Heinrich Berthe, d'après des mélodies de Franz Schubert. Mais le titre original allemand, c'était « Die Drei Mädelhaus », autrement dit « La maison des trois jeunes filles ».
Heitern und Hedern und Tannern schön, flink und schnell, eure Kleinen. Kommen zu dritt, nur ganz heimlich verstohlen. Wer hat befohlen, muss so still.
Such meinen Liebsten, sehr,
den Liebsten, vier.
Meinen Liebsten, sehr, meinen Liebsten,
vier. Ich figurier als Gouvernantchen oder Elefantchen hier. So willst die Ordnung und die Sitte, das als Dritte ich hier mache. Denn die Moral, sie darf nicht leiden bei euch beiden in der Sache.
Et les voilà, ces trois jeunes filles de la maison des trois jeunes filles, titre de cette opérette. Là, c'était Erika Köth, Rosemarie Rabe, Ilse Preuße qui chantaient cette version allemande de l'ouvrage créé à Vienne en 1916. C'est un ouvrage qui est bâti de façon un peu à l'eau de rose autour des amours plus ou moins imaginaires de Franz Schubert et de ses amis, mais qui est surtout construit intégralement sur des musiques de Schubert arrangées pour faire une opérette, ce qui horrifiait d'ailleurs un certain nombre de gens sérieux, à commencer par le grand philosophe Theodor Adorno, disant qu'il s'agissait là d'un objet abject de sentimentalité petite bourgeoise. Moi, j'avoue qu'avec mon mauvais goût, je trouve ça tout de même assez charmant. Écoutons donc maintenant dans la version française de 1921 cet ensemble extrait donc toujours de Chansons d'amour.
Assise au pied d'un lilas comme monte la sève, le corps trouble et l'esprit là doucement on rêve. En nos cœurs un cher désir vient s'épanouir, nos rêves et nos souhaits confions-nous-les.
Je voudrais ma cave pleine à tout jamais ne valira.
Je voudrais sans perdre haleine m'élever dans l'air serein.
Du grand Rubens, moi je souhaite avoir la palette.
Avoir des amis sous mon toit, c'est mon souhait à moi.
Moi j'attends l'âme ravie, celle qui doit changer ma vie.
Et quoi?
Et quoi?
C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire. J'attends, j'attends celle qui voudra m'aimer.
À le printemps dans mon âme, mais comme une flamme, d'un parfum céleste, l'air est en beau.
respire et mon cœur soupire.
Je crains que ton ciel qui m'aura délié.
On voudrait en vérité rester insensible, mais amour te résister, ce n'est pas possible. Car tu veux vaincre et tu vas de tes traits divins. Tu sais percer sans remords le cœur des plus forts.
Venez à moi, brune blonde, prête à bouger mes flots.
Quand Vénus sortit des ondes, hélas que n'étais-je là.
Je vous chéris, mes mains fidèles, mes petits modèles.
À toutes, je donne ma foi et sans savoir pourquoi.
Moi, j'attends l'âme ravie. C'est le qui doit changer ma vie.
Il croit,
il croit.
Ah, le printemps dans mon âme, mais comme une flamme de parfum céleste, l'air est embaumé. C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire. J'attends.
Un extrait du premier acte de Chanson d'amour enregistré en 1962 sous la direction de Jésus Etcheverry. Vous avez reconnu notamment évidemment la voix d'Emedonia, mais aussi celle d'André Malabrera et quelques autres. Dans cet ouvrage qui a connu beaucoup de succès après sa création au théâtre Marigny, beaucoup de succès en version française avant de disparaître du répertoire comme tant d'autres opérettes. Alors restons maintenant encore un petit peu schubertien, mais avec en plus le second degré, le détournement, le décalage, puisque c'est la truite, mais la truite revue par Francis Blanche.
Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Or, malgré son jeune âge, elle avait l'obstination. Et pendant 3 heures de suite, au milieu des éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. On lui donna ma chambre, moi je couchais dans le salon. Mais je crus bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revient bien vite, pieds nus dans les courants d'air, pour me chanter la truite de Schubert. Ce fut un beau solfège, pizzicati coquin. Accords trémolos et arpèges, fantaisie à 4 mains. Mais à l'instant tout s'agite sous l'ardente aiguillon de la chair. Elle fredonnait la truite de Schubert.
La 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 la, ploum ploum, ploum ploum.
Je lui dis, Gabriel, enfin voyons, comprenez mon émoi, il faut être fidèle, ça sera Schubert ou moi. Ah, c'est alors que je compris bien vite, en lisant dans ses yeux pervers, qu'elle me réclamait la suite du concert. Six mois après l'orage, nous fûmes dans une situation telle que le mariage était la seule solution.
mais avec un air insolite, au lieu de dire oui au maire, elle lui a chanté la truite,
la truite au chauvert.
Allez, 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 emmenez-la, ça vaut mieux. C'est fou ce que nous fîmes contre cette obsession.
On mit Gabriel au régime, lui supprimant le poisson.
Mais par une journée maudite, pour le vent, l'orage et les éclairs, elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert.
Elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. Oh.
À présent, je vis seul, tout seul dans ma demeure. Gabriel est parti et n'a plus sa raison. Dans sa chambre au Touquet, le reste des heures, auprès d'un grand bocal où frétille un poisson. Et moi, j'ai dit à Marguerite,
qui est ma vieille cuisinière,
ne me faites plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. Ne me faites plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire, ça me donne de l'urticaire, ça me donne de l'urticaire, de l'urticaire, de l'urticaire, de l'urticaire.
Marguerite! Monsieur a sonné.
Jouez-moi du Schubert.
Ah, j'adore ce grand loufoque ici dans un enregistrement de 1979. Je rappelle d'ailleurs que Francis Blanche a écrit beaucoup de belles chansons, parfois sérieuses, et puis aussi beaucoup de détournements, outre la truite de Schubert, notamment par exemple La pince à linge sur la 5e symphonie de Beethoven, L'honneur au barbu sur la musique du Barbier de Séville, ou encore Le parti d'en rire sur le boléro de Ravel. Mais restons encore un peu schubertiens, ou presque, avec un joli rythme à trois temps. On s'éloigne de l'Autriche pour aller tout près de là, en Bavière.
Thank you.
Danse bavaroise, c'est le nom de cette petite suite de Lendler enregistrée début 1951 par Max Greger et son sextet Jean-Cian. C'est extrait d'ailleurs d'un coffret de notre cher ami regretté Pierre-Marcel Onder. Ça s'appelait Fête au village bavarois. C'était un vrai plaisir que de découvrir chacun des morceaux qu'il nous proposait au fil des compilations, le cher PMO. Alors je préviens les auditeurs, et ils sont nombreux à regretter non seulement sa disparition, mais à regretter parfois qu'on ne passe pas plus de musique récréative sur l'antenne de France Musique. Jeudi, la semaine prochaine, ce sera hommage spécial à Pierre-Marcel Onder avec trois invités, Serge Elaïc, Jean-Christophe Keck et Jacques Lefebvre, vice-président de l'Association française de musique récréative. Et puis, surtout, beaucoup d'archives où vous retrouverez la voix de notre cher Pierre-Marcel Onder, une émission à ne pas rater, samedi prochain. Tiens, ces voix éthérées de fil glace, elles nous conduisent tout de suite au cœur du sujet, puisque je vais recevoir d'aimables jeunes filles des années 60 qui sont venues faire revivre le souvenir d'un groupe très populaire à l'époque. Je reçois aujourd'hui avec infiniment de plaisir les Djinns.
Thank you.
Oui, je voulais commencer par cette très jolie chanson. D'abord parce que c'est la première que j'ai connue des Djinns. Puis ça a été, je crois, aussi l'un de vos plus grands succès. Je suis très content, en tout cas, de vous recevoir ce matin. Annie Morel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Geneviève Bernaud.
Bonjour.
Bonjour Claudie Lebozec.
Bonjour.
Vous êtes en duplex à Mont-de-Marsan. Et bonjour Chantal Thévenard.
Bonjour.
Également à Radio France. Voilà, quatre des Djinns qui sont avec moi. Et vous m'expliquiez donc à l'instant que dans cet enregistrement, avec l'orchestre de Paul Bonneau, excellent orchestre de l'époque. Vous faisiez toujours un enregistrement d'abord avec l'orchestre et puis ensuite un enregistrement de l'orchestre seul.
Hein, oui, voilà. Exactement. Et cet enregistrement de l'orchestre seul nous servait pour la scène.
Voilà, pour
vos
tournées.
Parce que comme sur la scène, nous bougions, nous dansions, nous faisions un tas de choses, nous ne pouvions pas avoir un orchestre. Donc là, on nous passait les bandes, voilà. Mais nous chantions. Sur les bandes, il n'y avait pas de voix.
Voilà. Et il faut dire, ce n'était pas un des orchestres de Radio France, c'était l'orchestre de Paul Bonneau qui vous accompagnait
dans
toute cette série. Oui, des
musiciens qui travaillaient uniquement pour lui.
Alors les auditeurs l'ont compris, je suis bien entouré ce matin avec donc quatre des Djinns. Je me disais ça va peut-être être un peu confus, ça fait beaucoup de personnes qui parlent à la fois, mais en même temps elles ont insisté pour venir ensemble et je trouve ça très sympathique. Alors je vais peut-être leur demander d'abord à chacune de se présenter en un mot. Donc d'abord Chantal Thévenard, vous êtes d'abord une ancienne, on va y revenir, de la maîtrise de Radio France.
Oui,
vous êtes ensuite passée dans les Djinns, vous avez été de toute l'histoire des Djinns.
Oui, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai mené de front des études au Conservatoire de Paris. Je venais de rentrer au Conservatoire quand le groupe de Saint Djinns a été fondé, avec les anciennes maîtrisiennes et les maîtrisiennes.
Voilà, et ensuite vous êtes passée au cœur de Radio France,
voilà.
On y reviendra également. Alors à côté de vous, Geneviève Bernaud, qui est passée aussi par la maîtrise.
Ah, tout à fait.
Voilà, c'était la
Je
règle.
Je suis rentrée à 15 ans à la maîtrise.
Et puis ensuite, vous avez fait partie des Djinns, mais vous êtes partie un petit peu avant la fin de l'histoire
oui,
du groupe.
Oui, absolument. Moi, je suis partie le 1er juin 1962.
Voilà. Et pour continuer d'ailleurs de travailler dans les services de ce qu'était à l'époque la RTF.
Absolument.
Et on va en reparler. Annie Morel, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez aussi... Alors, vous êtes peut-être la plus ancienne de toutes celles qui sont là ce matin.
Alors, moi, je suis maîtrisienne depuis le 1951.
Ah oui, c'est ça. Oui.
J'ai fait toutes mes études. Après, j'ai été, bien sûr, versée dans les Djinns. J'ai pas tellement apprécié sur le moment, parce que j'étais pour la musique symphonique.
Ah oui, bien sûr.
Alors, la variété, bon... Mais ça a été acceptable. Le premier programme que l'on a fait, c'est à Bobino, ouais. Avec en vedette Jean-Claude Pascal. Alors ça nous a fait un petit peu avaler la déception.
Ben oui, c'était pas mal Jean-Claude Pascal.
Ah, c'était très bien, hein, très bien. Et ensuite, il a fallu continuer.
Voilà, et on va revenir sur l'histoire des Djinns, mais vous aussi, vous êtes passé plus tard dans le cœur de Radio France.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Mais sur concours, parce que la maîtrise ne versait pas les enfants directement dans les chœurs, il fallait passer le concours.
Et vous, Claudine Lebozec, qui êtes à Mont-de-Marsan, vous avez suivi donc à peu près le même itinéraire que vos trois camarades.
Oui, 1955,
voilà,
la maîtrise. Les Djinns tout du long. Après moi, je suis partie à Mogador pour faire Michel Strogoff,
qu'on a évoqué récemment dans cette émission, parce
écouté.
Que Jacques Ledru, le compositeur, nous a quitté il y a très peu de temps, absolument.
Oui,
et vous étiez donc dans les chœurs là-bas.
Oui, j'y suis restée 10 mois et je suis partie après à Marigny faire l'ouverture pour le jour de la tortue avec Annie Girardot et Philippe Nicot. Et puis je suis allée dans les chœurs.
Dans les chœurs de Radio France.
Alors voilà.
C'est bien parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une émission maison puisque vous êtes entrée toute jeune dans ce qu'était à l'époque la radio diffusion française et aujourd'hui on se retrouve dans ce qui est devenu Radio France, mais maison à laquelle vous êtes toutes restées.
Et nous sommes passés par l'ORTF.
Très attachés. En étant passés par l'ORTF, alors on va remonter un peu dans le temps en écoutant un enregistrement fort ancien d'ailleurs de la maîtrise de Radio France.
No.
un des quatre chants d'innocence de Marcel Landowski qui était au répertoire de la maîtrise dans ces années 50 où vous y êtes entrées, mesdames, des jeans. Alors, on revient un petit peu justement à la maîtrise. Là, d'ailleurs, c'était un enregistrement dirigé par le grand chef de chœur de la maîtrise qui était Jacques Jouinot. Hein. Vous vous rappelez Jacques Jouinot, j'imagine. Geneviève Bernot.
Tout à fait. Il s'occupait de la maîtrise d'enfants et de la maîtrise préparatoire.
Préparatoire, voilà.
Voilà. Et ce n'est qu'ensuite qu'il a, il s'est occupé de la maîtrise de jeunes filles. Mais à ce moment-là, c'était Jacques Besson qui était le chef de chœur. Et nous entrions à la maîtrise de jeunes filles à 17 ans environ.
Voilà. Mais alors, pour les plus jeunes, entrer à la maîtrise, c'était pas comme entrer dans les ordres, mais presque. C'était des, on choisissait la vie de musicien.
De toute façon, c'était sur concours.
C'était sur concours.
Absolument.
Alors, vous qui êtes entré très jeune, Annie Morel, vous rappelez vos débuts à la maîtrise vous pouvez évoquer un petit peu comment ça s'est passé le choix de devenir musicienne, c'était vos parents qui vous ont poussé?
C'est mon professeur de chant dans l'école primaire.
Oui.
De toute façon, moi, à 3 ans, je voulais chanter.
Ah.
Et quand j'étais petite, donc, je me mettais sur un siège, je tapotais sur le rebord de fenêtre et je chantais mon beau sapin. Et je disais à mes parents, je veux chanter.
Ouais.
Et mon professeur de chant à l'école primaire a dit à mes parents, il y a une école qui prépare pour chanter.
Voilà.
J'ai passé le concours, pas avec... un morceau classique.
Ouais.
J'ai chanté Mes jeunes années ou quelque chose comme ça. Quoi.
Ouais. Mais alors après, c'était du travail très sérieux une fois qu'on était reçu.
Alors on travaillait tous les après-midi la musique.
Voilà,
on a appris le solfège, on peut dire, de A à Z. Hein.
Voilà.
Vraiment.
C'était à l'époque rue Robert-Étienne, dans le quartier des Champs-Élysées.
Oui. Par contre, on avait cette chance que maintenant, ils n'ont plus cette chance à la maîtrise. Nous rentrions chez nous.
Oui.
Ça faisait une heure de trajet, mais tous les soirs, nous étions à la maison.
Voilà.
C'était pas un internat.
Alors, Chantal Thévenard, vous êtes entrée assez jeune aussi.
Et... À l'âge de 14 ans,
donc
en 52.
Donc, vous aviez ce double enseignement et vous vouliez aussi devenir musicienne professionnelle à ce moment-là. Hein,
c'est pour ça d'ailleurs qu'après ma sortie de la maîtrise, je suis rentrée au conservatoire.
Voilà, exactement.
Que j'ai menée en même temps que les jeans qui se sont formés un petit peu après que je sois rentrée au conservatoire.
Et alors, Claudie Lebeuzac, vous étiez déjà presque une jeune fille quand vous êtes entrée à la maîtrise.
Ah, oui, j'avais 15 ans. Oui.
Et vous vous rappelez vos débuts à la maîtrise de Radio France?
Oui, parce que comme je suis rentrée tard, on m'a mis dans le chœur d'enfant.
Ouais.
Et comme je faisais déjà presque ma taille d'adulte,
c'est ça.
Je me suis retrouvée vraiment très gênée et j'avais perdu ma voix.
À ce point-là?
Ah oui, alors nous avions un examen tous les trimestres. Et au premier trimestre, on avait mis pour moi à détourner.
Ça veut dire quoi?
Eh bien que je ne pouvais pas rester à la maîtrise, quoi, si ça continuait comme ça.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Et donc, on m'a promis que si je pouvais quand même me rattraper, je passerais en chœur d'enfant à l'époque. Et ce que j'ai fait, et après, ça a été tout seul.
Voilà, et puis après, donc, il y a eu cette bonne idée de trouver une espèce de formule intermédiaire pour les grandes jeunes filles qui étaient trop grandes pour la maîtrise, mais pas assez grandes pour les chœurs, qui a été justement l'invention des jeans. Alors, est-ce que l'une d'entre vous peut nous redire qui a eu l'idée dans cette maison de la radio de l'époque des jeans, Madame Bernot?
Oui, alors c'est Monsieur Roger Pradalier
qui
a eu cette idée pour la raison suivante, c'est qu'il habitait le Chênais où était Monsieur Bécaud.
Gilbert Bécaud,
qui est devenu notre parrain.
Ben oui, on va voir ça tout de suite, justement,
donc,
ça tombe bien.
et nous avons eu une partie du répertoire de Gilbert à faire.
Voilà,
à chanter.
Et ben, ça tombe bien, je vous propose d'écouter justement Pilou Piloué avec les jeans et Gilbert Bécaud.
Tu me crois ou tu me crois pas, mais tout est plein de... j'attends le jour où j'aurai mes prés et mes moissons. À genoux ou sur les mains, peut-être bien. À genoux ou sur les mains, je me te le franchirai le chemin. Ce chemin des quatre printemps, nous le grimperons en chantant pour fabriquer notre maison. Ou sur les mains, peut-être bien. À genoux ou sur les mains, je me te le franchirai ce chemin. Au pays qu'un joli nom.
Gilbert Bécaud et les jeans, mesdames, vous vous rappelez cet enregistrement?
Ah oui.
Oh là, ça vous a marqué, Gilbert Bécaud.
Alors écoutez, il faut faire quand même une précision, parce que vous entendez des voix d'enfants.
Oui.
Et les voix d'enfants, c'est toujours un tout petit peu strident par rapport aux voix de jeunes filles.
Oui.
Parce que nous étions que 20 sur la scène.
Parce qu'il faut distinguer, en fait, la formation pour les enregistrements
c'était
et
40...
la formation pour les spectacles.
Absolument.
Hein, voilà.
Absolument.
Voilà, exactement. Alors, ajoutait
les voix d'enfants de la maîtrise pour les enregistrements.
Pour les enregistrements.
Et il faut signaler quelque chose,
c'est que
nous chantions à plusieurs voix. C'était harmonisé par Paul Bonneau.
Toujours Paul.
Parce qu'il s'est monté des groupes depuis, mais qui chantent à l'unisson.
Évidemment.
Alors que nous chantions à trois voix.
Il faut aussi se représenter, harmoniser. Parce que vous avez eu la gentillesse, toutes les trois, de venir avec des photos. Il faut se représenter. Ce que c'était qu'un spectacle des jeans, c'était 25 charmantes jeunes filles, toutes en robe blanche, avec des jolies coiffures, etc. Il y avait vraiment une tenue des jeans.
Oui, tout à fait. Tout
vous
à
savez
fait.
qu'il avait trouvé cette tenue blanche qu'il avait imaginée, non?
C'était la femme...
Claudine Lebozec, oui.
Oui, c'était la femme de Bruno Cocatrix.
Ah bon?
Oui. Qui avait fait pour l'Olympia, parce que nous sommes passés 5 semaines avec Gilbert Bécaud à l'Olympia.
Et oui.
Et elle nous avait fait faire ces robes-là à cette occasion.
Ah oui.
Donc on peut dire que les jeans, c'était à la fois une chorale, puisque ça sortait de la maîtrise et que ça conduisait plus ou moins au cœur de Radio France, mais c'était en même temps un groupe de variété dans la chanson de l'époque.
Tout à fait.
Voilà.
Nous participions à des galas de variété.
À des galas de variété, et là vous avez commencé la grande vie, si on peut dire, des tournées, des spectacles, etc.
Et pendant la tournée d'été, c'était déjà la grande vogue du yé-yé.
Voilà, c'est ça. C'est
et nous, nous arrivions avec nos chansons harmonisées qui plaisaient à un certain public qui n'était pas celui du yé-yé.
Alors, une autre question que je vous pose, c'est justement les spectacles que vous avez commencé à donner en dehors des enregistrements, ils étaient mis en scène, ils étaient composés, il y avait un directeur. De scène, comment ça se passait?
La personne qui nous a mis en scène pour la première fois était un certain Quentin Foster, un Américain. C'est lui qui nous a donné notre style, qui a créé ce podium, qui d'ailleurs figure sur les photos, et qui a fait toutes les premières mises en scène. Il était génial parce que, partant de rien, nous n'avions jamais fait de mise en scène. C'est lui qui, sur chaque chanson, a trouvé des motifs différents. Et par exemple, pour La Mer, qui est une œuvre très chantée, très calme.
La Mer de Traînée.
Nous ne bougions pas. Et tout était dans les effets de lumière.
Oui, c'est
les projecteurs qui faisaient des effets.
Il faut dire, Annie Morel, pour vous qui aimiez plutôt la musique classique au départ, le répertoire a été purement tiré des chansons à la mode, de la variété, etc. Et vous étiez heureuse
dans
ce spectacle?
Oui, j'étais surtout avec mes amis aussi. Parce que, vous savez, de commencer à 11 ans ou à 12 ans dans une école, on ne s'est pas perdu de vue. C'est important pour les enfants.
Oui, c'est vrai. Oui, vous étiez très
important.
Très liés, très soudés.
Et nous avons eu une vie extraordinaire. Parce que nous avons beaucoup voyagé en Belgique très souvent. Et c'était très, très agréable.
On va revenir aux tournées, d'ailleurs, dans un instant, parce que je crois que c'était aussi assez fatigant, parfois. Mais vous voulez dire quelque chose, Geneviève Verneuil?
À la maîtrise, les deux plus belles tournées que nous ayons faites, et intéressante.
À la maîtrise.
À la maîtrise.
Avant les jeans.
Avant les jeans. Oui. C'est les pays de l'Est en 59. Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, Yougoslavie. Mmh. Et en 60, Israël pendant un mois.
Oui, c'est évidemment de très beau voyage. Claudie Lebozec, vous aussi, donc jeune chanteuse plutôt classique, vous retrouvez finalement dans un spectacle de variété, sur des scènes, etc. C'est quelque chose qui vous plaisait, qui vous a enchanté dans votre vie de jeune fille?
Je préférais.
Vous préfériez ça finalement? Vous ne l'aviez pas prévu, mais c'était ce que vous
préfériez. Non, mais je préférais, oui.
Vous avez peut-être pensé même vous tourner à ce moment-là plus vers des... Ce qui vous a conduit à Mogador ou dans des spectacles plus populaires.
Oui, à Marigny aussi, comédie musicale, oui.
Oui, c'est ça, oui.
Mais alors, quand j'ai voulu faire un disque, on m'a répondu « faites du classique, mais pour les variétés, ça ne marchera pas
». Alors, évidemment, mesdames, quand on entend les jeans, quand on regarde les photos des jeans, on ne peut pas ne pas faire une association avec un autre groupe de l'époque, avec lequel on pourrait imaginer, d'ailleurs, qu'on a peut-être essayé parfois de vous marier les uns avec les autres. Vous voyez, évidemment, à qui je veux penser.
Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour. Passez vos bancs légers, vos bonbons de l'amour. J'ai les quatre saisons pour aller flâner et semer des moissons de baisers. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer. Printemps et l'été pour chanter. Vous êtes des enfants qui vous donnez du mal pour vous aimer et du mal pour pleurer. Mais moi j'arrive à temps, à temps c'est bien normal pour aller réparer ce que vous déchirez.
J'ai les quatre saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter.
Je donne à bon marché de quoi vivre dans, de quoi vivre dans, plutôt que d'employer. Je ne demande rien pour me dédommager d'avoir sur mon chemin la joie que j'ai donnée.
J'ai les quatre saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter.
Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que les chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour. Passez vos bancs légers, vos bonbons de l'amour.
J'aime beaucoup cette chanson, Le Marchand de Bonheur, qui me rappelle mon enfance. C'était bien sûr Les Compagnons de la Chanson. Mmh. Alors, évidemment, je le disais tout à l'heure, quand on pense au jean, on pense un petit peu aux Compagnons de la Chanson. Vous étiez, au fond, un petit peu l'équivalent féminin des Compagnons de la Chanson, mesdames.
Tout à fait.
Mais vous n'avez jamais chanté ensemble?
Non.
Chantal Thévenard, vous avez...
Non. Nous avons failli lors d'un sport dimanche à la télévision, mais ça ne s'est pas fait.
D'accord. Donc finalement, vous ne vous êtes jamais rencontrés.
Non. Parce qu'il faut dire que nous faisions quand même tous les dimanches, avec l'émission de Roger Coudert et Marcillac, oui. Nous étions tout le temps invités pour faire un scoop.
Ah oui.
Tous les dimanches.
Oui.
Un sport dimanche.
Mais pas avec les Compagnons.
Ah non, donc. Pas avec les Compagnons.
Une autre question qui me vient à l'esprit quand j'écoute les Compagnons de la Chanson, c'est que, évidemment, dans les Compagnons de la Chanson, il y a toujours un peu Fred Mella, qui est un peu le soliste, et puis il y a les autres qui sont derrière. Est-ce qu'il y avait des répartitions des rôles dans les jeans entre des solistes et d'autres qui étaient plus des accompagnements?
Oui, il y avait toujours une soliste quand nous étions sur scène. Une ou deux solistes.
Mais c'était toujours les mêmes?
Pratiquement, oui.
Ah oui, pratiquement. Ce serait peut-être intéressant de rappeler leur nom.
Alors, il y avait Claudine. Et il y avait Nicole
Dard.
Voilà, qui était donc un petit peu les solistes du groupe.
Oui.
Claudie Lebozec, vous aimez les Compagnons de la Chanson, ça vous rappelle aussi des bons souvenirs de l'époque?
Oui, dites-moi. Moi, ce que ça me rappelle, la tournée au Canada, où nous étions à Québec chez Gérard, c'était des cabarets. Et il y avait deux cabarets, un où il y avait les Compagnons de la Chanson, et un où nous étions.
Ah oui, quand même, vous n'étiez pas très loin.
Et leur jour de relâche, ils sont venus nous écouter.
Ah, bah sympa. Finalement, vous voyez.
Et ils nous appelaient les compagnonnes.
Les compagnonnes de la chanson, c'est mignon, voilà. Ça. Alors, revenons-en justement un petit peu à ces fameuses tournées. J'ai cru comprendre en discutant avec l'une d'entre vous hier au téléphone que c'était des bons souvenirs, mais que ça avait un côté assez sportif, Annie Morel.
Très fatigant, très très fatigant. Je pense qu'on a dû faire 4000 kilomètres dans les deux mois.
C'était pendant l'été.
Bien sûr, comme les chanteurs.
Oui, c'est ça. Oui.
Excuse-moi, tu te trompes, c'était 12 000 kilomètres.
Ah oui.
Alors, t'en as aussi que ça soit 4 000 kilomètres.
Mais alors, vous savez, on voyageait toutes les nuits.
Ah oui.
On changeait de ville. Alors, un jour, nous étions à Clermont-Ferrand.
Oui.
Le lendemain, nous étions à Colmar. Et le surlendemain, nous étions à Limoges.
Non, à Monte-Carlo, après Colmar. Pas... À Monte-Carlo, le lendemain de Colmar.
Mais oui, parce que ça ne pouvait pas tous enchaîner.
Eh oui,
parce que c'était des festivals, c'était le carnaval, c'était... Il n'y avait pas d'enchaînement.
Bon, il fallait avoir une sacrée santé, vous étiez toute jeune, mais bon, c'est...
Oh, on avait 20 ans quand même, 18, 19 ans... On n'était pas si jeune que ça, quand même, pour supporter cette fatigue. Parce que quand nous arrivions, alors l'hôtel, souvent, n'était pas prêt. Les chambres d'hôtel n'étaient jamais prêtes. Il fallait attendre midi. Alors, on s'assoupissait un peu dans le hall de l'hôtel. Quand nous avions nos chambres, bon, très bien. Et là, l'après-midi, il fallait retourner se rendre compte de la salle où nous étions le soir.
Bien sûr, bien sûr.
Il fallait répéter.
Mais est-ce que tout ça a été compensé par des royalties?
Non. Et je vais donner une suite à ce que vient de dire Annie. C'est qu'une fois, nous sommes arrivés à Montpellier, comme
oui,
ça.
Donc, oui.
Nous avons dû attendre nos chambres. Mais c'était des personnes anonymes qui les occupaient. Et le lendemain, qui attendait nos chambres? C'était l'équipe de football de Reims qui, à l'époque, était championne de France.
Ils avaient peut-être repéré qu'il y avait des jeunes filles qui devaient... Vous confirmez ces souvenirs un petit peu sportifs de tournée, Claudie Lebozec?
Oui, mais sauf que moi, je m'en souviens à l'envers parce que il y avait Coppa et Fontaine qui m'ont dit « Vous allez dormir dans notre chambre ». Donc pour moi,
ah bah oui, voilà.
Ils étaient avant nous.
Ah, il semblait que c'était au retour après.
Non, ils étaient avant.
Ah bon?
Alors, je propose qu'on écoute encore, parce que vous savez, moi j'adore l'opérette et la comédie musicale, donc j'ai dit que dans les enregistrements des jeans, il y avait surtout beaucoup de chansons à la mode de l'époque, des créations originales aussi, mmh. comme Oui, 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 par exemple, je pense que c'était vraiment oui, pour oui. les jeans, hein. Et puis aussi des reprises d'opérette et de comédie musicale, j'ai choisi ce fameux T pour deux de Nono Nanette.
Je pense qu'on ne devait pas chanter cette chanson sur
scène. Non, les titres américains n'ont pas été mis en scène.
N'ont pas été mis en scène. Alors, je précise, hein, c'était donc à nouveau Thé pour deux, chanté par les Djinns. Mais les voix gardent une fraîcheur que j'adore, moi. Ça, oui. Je trouve ça marche très, très bien. Et ça fait partie, je précise, d'une compilation qui est parue chez Marianne Mélodie. Je crois que Claudie Lebozec, d'ailleurs, vous avez un petit peu aidé Mathieu Moulin qui a fait ce disque de chansons des Djinns. Oui. Hein.
Je lui ai retrouvé les photos, je lui ai un petit peu parlé de nous.
Voilà, vous lui avez raconté l'histoire en quelque sorte, et c'est très agréable de pouvoir retrouver vraiment, je crois, une quarantaine de chansons comme ça. Peut-être qu'il n'y a pas tout d'ailleurs. Hein, dans
mais les succès américains ont été enregistrés même après la fin du groupe des Djinns. On nous a reconvoqués.
Non, parce que moi,
alors Chantal Thévenard n'est pas d'accord.
Je n'ai fait aucun des enregistrements complémentaires parce que j'étais déjà dans les chœurs et on ne m'a pas fait signe, bon. Mais j'avais enregistré les titres américains.
Quoi qu'il en soit, justement, c'est intéressant de parler un petit peu. On a dit comment est-ce qu'on arrivait dans les Djinns en sortant de la maîtrise, mais finalement, comment est-ce que tout ça s'est terminé? Pourquoi est-ce que tout ça s'est terminé? Claudie Lebozec, je vous demande encore peut-être.
On coûtait trop cher.
Ah, déjà.
Mais oui, parce que l'argent que nous rapportions allait dans un ministère.
Et
l'argent que...
Vous aviez des petits cachets quand même.
On était au mois comme dans les chœurs.
Nous avions un salaire.
Voilà, vous aviez
un salaire mensuel.
Et le reste, puisqu'à l'époque, tout était fondu dans l'État, dans le service public, n'allait même pas à Radio France, mais remontait carrément au ministère de tutelle.
Voilà.
Voilà comment ça fonctionnait. Donc le groupe a disparu en 1966.
Le
groupe de scène en 64.
Hein. Et il faut tout de même dire qu'au moment où le groupe de scène s'est terminé, nous devions partir à Las Vegas pour un an où nous avions un engagement.
Ah oui, oui.
Ben non.
Parce qu'il n'y avait pas tellement d'équivalent, au fond, dans les autres pays à ce qu'étaient les Djinns. Hein.
Ce sont les accompagnateurs qui n'ont pas voulu, les administrateurs qui n'ont pas accepté Las Vegas. Parce que ça les faisait quand même quitter leur famille pendant un an.
Oui, mais le groupe s'est terminé à ce moment-là.
En tout cas, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, que tout ça faisait partie d'une grande entreprise d'État, qui était la radio, puis l'ORTF, c'est que vous avez effectivement toutes plus ou moins continué vos carrières dans la maison. Et je pense pas seulement à vous, parce que pour moi qui suis entré il y a déjà maintenant un bon moment à France Musique, j'ai connu l'administratrice de France Musique de l'époque, Nicole Girard, qui était une ancienne de la maîtrise. Je me rappelle bien de Marie-Josée Burtin, qui venait relever les droits dans les émissions, qui est une ancienne des Djinns, et comme ça vous êtes tout un petit peu retrouvés au fond dans les différents services de l'ERTF.
Oui.
Voilà. Alors on revient peut-être un instant justement sur ces différentes carrières. Alors Geneviève Bernot, vous êtes devenue la secrétaire justement de Monsieur ou l'assistante de Monsieur Pradalier, le fondateur des Djinns.
De Roger Pradalier, fondateur des Djinns. Oui, tout à fait. Voilà. Et jusqu'à l'éclatement de 75, je suis restée à son service.
Et vous êtes partie à France. Et Antenne 2 à l'époque.
Affectée, à Antenne 2 lors de l'éclatement. Voilà.
Alors, Chantal Thévenard, vous avez suivi la voie que vous vous étiez fixée au fond en entrant au conservatoire à la maîtrise, c'est-à-dire le chant et donc les chœurs de Radio France. Oui. Mais on ne passait pas automatiquement dans les chœurs. Hein.
Non, comme disait Annie,
il fallait repasser le concours. Et vous êtes restée dans les chœurs
jusqu'à la retraite.
Jusqu'à l'âge de la retraite. Annie Morel, vous, donc, même chemin que Chantal Thévenard.
Tout à fait.
Jusqu'à l'âge de la retraite.
Oui.
Et vous avez retrouvé...
Ah non, j'ai fini un petit peu avant, parce que j'ai eu un accident.
Ah bon. Mais vous avez retrouvé un répertoire là, purement classique, alors, pour le coup, par rapport
aux Djinns. Oui, dans les chœurs. Et surtout, nous avions beaucoup de satisfaction dans les chœurs.
Oui.
Par exemple, on a fêté les 50 ans de la fin de la guerre. Je crois que c'est 50 ans.
À Cologne.
On est allé chanter en Allemagne, avec un chœur français, bien sûr, un orchestre allemand et un chef américain.
Ah oui, c'est pas mal.
James Conlon. Et nous avons eu le même concert aux Invalides quand nous sommes revenus à Paris.
Et vous, Claudie Lebozec, donc à peu près aussi le même itinéraire, sauf que vous êtes passée par le théâtre et la comédie musicale avant d'entrer dans les chœurs.
Oui, de revenir dans ma famille.
Voilà, c'est ça, exactement. Vous vous retrouvez d'ailleurs, enfin, en dire un mot, mais petite parenthèse avant de conclure. Les Gams, ça vous dit quelque chose?
Oui, tout à fait, bien sûr.
Voilà, parce qu'au fond...
C'était quatre de mémoire. Hein,
voilà,
anciennes Djinns.
Les Djinns, c'était déjà de la variété, mais comme on était en plein dans l'époque yéyé, comme vous l'avez dit, il y en a quatre qui ont fondé un groupe, alors vraiment yéyé, et ça s'est appelé Les Gams. Oui. Ça a eu son petit succès au début des années 60.
Yeah, 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 yeah. Il refait faire ce dont je n'ai pas envie. Il me
j'essaie de le fuir. Il a le truc pour me faire revenir. Je suis le jouet de son bon plaisir. Oui, il m'a comment vous dé, oui, comme ensorcelé. Il a le truc pour jouer avec mon cœur, mon pauvre cœur.
Il m'a.
Près de lui, je marche de travers. J'ai l'âme qui pense à l'envers, oui. Dites-moi que faire. Je n'y veux rien.
Yeah, 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 yeah.
Lorsque je rêve d'aller au sport d'hiver, je me retrouve toujours au bord de mer. C'est lui mon paradis, mon enfer. Oui, il m'a comme envoûté, oui, comme ensorcelé. Il a le truc pour jouer avec mon cœur, mon pauvre cœur.
Il m'a.
Sans bruit, j'ai crié stop au premier des taxis. Mais au volant, c'était encore Holly. Oui, il m'a comme envoûté, oui, comme ensorcelé. Il a le truc pour jouer avec mon cœur, mon pauvre cœur.
Voilà, les jeans Manitou et
la maîtrise Manitou.
Et la maîtrise de Radio France Manitou.
Même mission Manitou.
Absolument, vous avez raison.
Alors, je crois que dans les jeans, il y a une de nos solistes qui s'appelle Claudine.
Oui.
Je crois qu'elle a fini une émission avec Dorothée.
Ah bah vous voyez aussi encore un autre itinéraire. Là, oui. En tout cas, c'était les Gams, hein, je le rappelle. Il a le truc, c'était en 1963. Oui. Et c'était Graziella, Annie, Michel et Suzy. Quatre de vos anciennes camarades qui ont donc... évoluer vers ce genre de répertoire.
Et vous voyez, les Gams, c'était Yéyé.
Chantal Thévenard,
et moi,
oui.
Quelques
oui.
années après les jeans, j'ai chanté plusieurs fois Antonia des Contes d'Hoffmann au théâtre et Musette de la Bohème.
Voilà, c'est très, très éclectique. Hein. Alors, vous vous retrouvez... Hein, alors, je ne sais pas si c'est en tant qu'ancienne jean ou en tant qu'ancienne maîtrisienne, mais vous êtes restées toutes de très, très bonnes camarades. Dites-nous un petit peu, c'est à quelle fréquence.
Oui.
C'est les anciennes des jeans ou les anciennes de la maîtrise qui se retrouvent?
C'est plutôt les anciennes de la maîtrise.
De la maîtrise.
Oui, mais on se retrouve donc deux fois par an.
Deux fois par an.
Au mois de juin et au mois de novembre-décembre.
Oui, parce que même quand Noël, on se retrouve au repas, il y a des messieurs qui sont avec nous, des anciens garçons de maîtrisiens.
Et bien sûr, parce qu'il y avait aussi des garçons dans la maîtrise, il faut le dire. Oui, bien sûr, évidemment. Et dans le chœur, n'en parlons pas.
Alors, comme maîtrisien, vous aviez Michel Picmal, que vous avez dû
bien
entendre
sûr,
parler.
Bien sûr, j'ai bien connu.
Michel Teclair est bariton connu.
Et donc, rendez-vous régulier, peut-être un peu plus difficile pour Claudie Lebozac, parce que vous êtes loin de Paris, et vous êtes un certain nombre, j'imagine, à avoir quitté la région parisienne.
Oui, je suis dans les Landes et j'y suis tellement bien que...
que vous ratez quelques-uns des repas.
Voilà.
Mais vous m'avez dit que vous, contrairement à certaines autres, vous continuez à chanter. Enfin, du moins dans votre salle de bain.
Oui, oui.
Aucune d'entre vous aujourd'hui ne pratique plus le chant. Non, c'était...
Moi, j'aurais souhaité, j'ai fondé une petite chorale dans l'église.
Oui.
Et puis, quand j'ai eu mon accident cérébral, j'ai été obligée d'arrêter.
Et vous, Geneviève Bernot, donc vous avez quand même un des petits projets de ce côté-là.
Un petit projet, oui. Oui, oui. Tout petit pour le moment,
de
parce que je n'ai pas encore contacté.
Un cœur. Voilà.
Oui, peut-être.
Alors, disons peut-être. Que moi, j'arrive de temps en temps à chanter une petite comptine à mes petits-enfants, mais...
Et Chantal Thévenard, ça vous manque pas trop?
Quand j'entends les rôles que j'ai travaillés en lyrique, j'ai très envie. Alors, quelquefois, j'ose. Je m'arrête très rapidement.
Bon. Écoutez, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir avec cette bonne humeur qui à, même à distance, correspond bien à l'esprit, à la couleur musicale de vos disques des jeans. Il y a longtemps que je voulais faire cette
émission. Vous savez, nous avons été à bonne enseigne à la maîtrise.
Oui.
Parce que les voyages, bien souvent, on partait une semaine. On a fait l'Allemagne, on a fait la Belgique, on a fait la Bulgarie. L'Italie. En Europe centrale, on a même rencontré le compositeur Kodály.
Ah oui, oui. Le grand Kodály.
Oui. Il était au piano, nous avons une photo et nous sommes autour du piano à chanter.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Et avec la maîtrise, nous avons aussi chanté pour la reine Élisabeth de Belgique, qui nous a serré la main à toutes. Avec l'ensemble vocal des jeunes filles de la maîtrise.
Oui, parce qu'on faisait le concours. Il y avait un concours de chant à ce moment-là.
Et vous me disiez aussi que vous aviez chanté avec les Bluebell Girls, qui était un autre groupe important
de l'époque. Oui, sur les bateaux-mouches.
Sur les bateaux-mouches.
Nous avions fait un aller-retour de l'Allemagne, je crois, jusqu'à Notre-Dame ou au-delà.
Oui, oui.
C'était théoriquement le printemps, mais c'était comme cette année. C'était un printemps tardif et nous avons eu très froid. Oui. Et voilà. Les Bluebell Girls ont eu encore plus froid.
Beaucoup de souvenirs très vivants, très imagés. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Alors, Claudie Lebozac, vous qui êtes à Mont-de-Marsan, je me tourne vers vous. Parce que je vais vous dire, comme vous n'étiez pas avec nous, on a choisi sans vous la dernière chanson, et il se trouve que j'ai demandé à vos camarades qu'est-ce que vous voulez pour finir. Je me suis dit, elles vont pas être d'accord. Or, elles ont choisi toutes les trois la même, les marchés de Provence.
Ah bon, moi j'aurais choisi la mer.
Ah, vous auriez choisi la mer. Bon, mais la loi de la majorité prime. En tout cas, merci d'avoir été aussi avec nous ce matin et à bientôt.
Merci à vous pour votre émission.
Merci.
Au revoir, Claudie.
Au revoir, Claudie.
Au revoir.
Au revoir.
Les marchés de Provence, un des nombreux enregistrements des jeans que vous pouvez retrouver dans le double CD qui vient de leur être consacré chez Marianne Mélodie. J'étais en tout cas très heureux de passer ce moment avec elle ce matin. Mais il est temps sans plus attendre de retrouver la chronique de Jean-Christophe Keck.
Thank you.
Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Benoît.
Très heureux de vous retrouver pour ce printemps qui va être offenbachien naturellement.
Bien sûr.
Et Roger.
Un petit peu de Roger quand même, ben oui, toujours. Alors d'abord, nous allons continuer notre exploration systématique des archives de la radiodiffusion française que l'Institut National de l'Audiovisuel a bien voulu mettre à notre disposition. Un grand merci au passage à notre documentaliste Martine Auger, même si elle n'est plus dans nos murs et qu'elle jouait d'une retraite paisible et bien méritée. Car grâce à ses recherches, nous pouvons aujourd'hui partager avec vous une rareté enregistrée le 18 mai 1947 sur disque Piral, d'où la qualité sonore assez inégale de ce document. Il s'agit d'un opéra comique en un acte sur un livret de Forge et Laurencin, composé par Offenbach en 1872, expressément pour le Karl Theater de Vienne. Alors dans l'extrait du duo que nous allons maintenant écouter, il est question d'un délicieux breuvage. Et comme il se doit chez Offenbach, on n'hésite pas à faire claquer sa langue pour mieux, encore mieux montrer, illustrer musicalement cette fine dégustation. Alors nous allons entendre tout d'abord cette version inédite de 1947, puis un enregistrement un peu plus récent du même duo afin d'éliminer de nos oreilles tous ces craquements et autres souffles intempestifs.
Ah, quel bon vin, comme il brille et pétille, autant couler jusqu'au cœur de Charles.
Versez Bourgogne et Madère à plein verre, ce vin est vraiment parfait, quel bouquet.
C'est un tavern pour rival et royal, et puis qu'il n'en coûte rien, vivre bien.
Oui, comme chante Grégoire, il faut boire. Dans mon gosier, tout Ouida passera.
De voir rouge et blanc,
tout y passera.
Grâce à nous deux,
oui, tout se boira.
Joyeux de fête heureux,
un charmant
du Offenbach comme j'aime, avec des petits trucs comme ça, originaux, le claquement de langue. Sauf que le duo qu'on a entendu d'abord, donc de Fleurette et Joli Cœur, accompagné au piano par Robert Véron-Lacroix en 1947, est devenu dans la version anglaise un trio.
Voilà.
Voilà, de cette œuvre faite de plein de choses d'Offenbach.
Exactement, un pasticcio
Columbus.
Tout à fait, très bon pasticcio d'ailleurs. C'est d'ailleurs amusant de retrouver dans un tel répertoire l'honorable interprète de Bach, Robert Véron-Lacroix, et le compositeur René Chaland,
oui,
qui naguère nous en fit tant baver avec ses devoirs d'harmonie, basse et autres chandonnées. Deux musiciens de la rigueur au service d'une musique des plus légères. Fleurette d'ailleurs est une très jolie partition, et encore une œuvre qui mériterait d'être remontée dans son intégralité, et son intégrité surtout, avec de bons chanteurs-comédiens et un véritable orchestre, car il faut bien le rappeler, le génie d'Offenbach, ce n'est pas que la mélodie, c'est aussi des détails et des couleurs orchestrales dont il est regrettable de se priver. Le piano nous donne seulement une image en noir et blanc, mais avec l'orchestre, nous pouvons savourer réellement toutes les sémillantes couleurs de cette musique. Mais revenons à nos deux héros, Fleurette et Joli Cœur. Les voici enfermés dans une pièce et complètement affamés, ce qui va permettre à notre cher Offenbach de nous servir un de ses plus appétissants duos gastronomiques.
Oui, je bout et sans façon, j'ai l'estomac, ma foi, dans les talons.
Ensemble, nous sympathisons, j'ai l'estomac aussi dans les talons. C'est la fringale,
la fringale,
et la famille, quel cannibal. Ah, comme vous pour moi petit, je me sens un gros appétit.
Quel appétit,
quel appétit,
rien pour calmer notre appétit.
Et quand là-bas, on fait bombance, fatale chose,
il faut jeûner. Gibelotte, le gros rôti matelote, petit salé venaison, boudin pâté saucisson, chapeau du mambien de du oui, voilà mon menu. Ah, certains tel ordinaire aurait le don de me plaire, mais je vois bien qu'aujourd'hui il me faut passer quel ennui. C'est en vain qu'on se résigne, de colère je trépigne. Ah, si c'était si, sortons vite d'ici. Bordeaux bien vieux, Malaga, Chablis, Pouilly, Marsala, Arbois, Lunette et Champagne, vin de Constance et d'Espagne, vin de Chypre, vin du Rhin, pour arroser le festin, tout vin fin et de grands crus. Oui, voilà mon menu. À certains tel ordinaire aurait le don de me plaire, et je crois bien qu'aujourd'hui il me conseille quel ennui. C'est en vain qu'on se résigne, de colère je trépigne. Aussi c'était si longtemps, sans tant vite d'ici. J'ai faim, ah quel ennui, il faut donc aujourd'hui.
Et toujours cette rareté de 1947 sur disque Piral, donc Fleurette, une œuvre très rare, effectivement,
très rare.
D'Offenbach, chantée par René Diane et Noël Prado, au piano Robert Véron-Lacroix, et quand même un chef d'orchestre, donc René Chaland.
Qui battait dans le vide.
Mais en tout cas, encore un morceau qui me confirme qu'Offenbach devait avoir un sacré coup de fourchette.
Hein. Ah oui, oui.
Il chante beaucoup la nourriture dans ses œuvres.
Hein. Et pourtant, on connaît son menu qui était très maigre. Hein. Il mangeait tous les jours le même menu au restaurant, donc le riche, hein, le café riche. Ouais. Il mangeait toujours sa mouillette de pain trempée dans un œuf coq avec une petite noix d'agneau, de côte d'agneau, et c'est tout. Par contre, on ne sait pas ce qu'il mangeait le soir.
Ah, voilà.
On parle toujours des déjeuners, mais pas des dîners. Alors, ce petit ouvrage lyrique, d'ailleurs, Fleurette, était retransmis par le club d'essai de la radio diffusion française dans une série intitulée L'Opéra de 10 heures, et nombreuses partitions d'Offenbach et d'autres compositeurs lyriques ont ainsi profité de la troupe naissante de la radio lyrique avec comme accompagnateurs de futures vedettes du clavier tels Robert Véron-Lacroix ou encore compositeur que nous aimons tant, Jean-Michel Damaze. Ce 18 mai 1947 était d'ailleurs enregistrée une seconde pièce d'Offenbach composée sur un livret de Blum et Crémieux et dont la carrière fut tout de même plus remarquable que celle de Fleurette. Il s'agit de Bagatelle, donnée pour la première fois sur le théâtre des Bouffes Parisiens le 21 mai 1874. Lors de la création, le rôle de Georges Planteville était interprété par le travesti de Mademoiselle Griveaux, mais ici c'est un ténor, Georges Foy en l'occurrence, qui interprète le charmant rondeau du Gandin et Conduit.
Avant-hier soir, j'attendais ma folle maîtresse. Elle m'avait fait la promesse d'y venir sans faute me voir. Au bout d'une heure, là d'attendre, en homme impatient, je pris le seul parti que j'eusse à prendre. C'était la route de Paris. Je m'embarque naïvement et vers 11h30, à la porte de mon ami, pour sonner amoureusement. Au premier bruit de la sonnette, pas de réponse tout d'abord. Je m'impatiente et m'apprête à réitérer mon accord, à réitérer mon accord.
d'un ton d'émotion s'écrie : qui va là ? Qui donc, je vous prie, attendez-vous autre que moi ? On me reconnaît sur ma bouche, un doigt vient se poser soudain, et Madame Sainte-Nitouche me reconduit de l'autre main. Je comprends le geste et me dis : il paraît que la place est prise, fort déconfit de ma surprise. Je descends de mon paradis. Des personnes mal avisées auraient crié, hurlé, gémi. Moi, je pris aux Champs-Élysées l'omnibus qui rentre à Neuilly. Et là, tranquillement assis, l'esprit rafraîchi par la pluie qu'en route j'avais recueilli, je me mis à rêver ainsi, je me mis à rêver ainsi. Dira le mot en somme de l'aventure d'aujourd'hui. Est-ce moi qui trompais cet homme, ou bien suis-je trompé par lui? Si c'est moi qui suis le déçu, je m'en consolerai peut-être en disant comme le grand maître, en disant comme le grand maître, Georges Dandin, tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu, Georges Dandin, Georges Dandin, tu l'as voulu.
Voilà un ténor bien oublié, mais parfait, oui. Dans ce genre, Noël Prado, qui chantait donc cet extrait de Bagatelle d'Offenbach, accompagné au piano par Robert Véron-Lacroix, toujours en 1947, Jean-Christophe.
Peut-être Prado, d'ailleurs, peut-être un descendant du Prado qui a créé beaucoup de pièces d'Offenbach. En tout cas, ce monsieur chantait avec sa voix. Je ne sais pas s'il chantait bien ou pas bien, mais il chantait avec sa voix, contrairement à maintenant, où on chante avec la voix des autres. Enfin, alors, étant donné que le mois dernier, nous avons volé un peu de temps à notre ami Roger, afin de pouvoir vous présenter la dernière cuvée du Festival Offenbach de Serre Chevalier, eh bien, rendons à César ce qui lui appartient et terminons cette chronique par un feu d'artifice parisien, comme seul Roger en a le secret.
Tourbillon de Paris par Roger et son grand orchestre. Et c'était bien sûr un choix de Jean-Christophe Keck.
Et oui, qui court d'ailleurs vite prendre son train, puisque je rentre séance tenante à Briançon, la plus haute ville d'Europe et la plus ensoleillée de France. 300 jours de soleil par an d'ailleurs, du moins c'est ce qui est écrit sur le panneau. Et ce, afin de présenter à notre fidèle public un nouveau volet des Offenbachias du Briançonnais, en compagnie de la soprano Isabelle Philippe. Je sais que vous l'appréciez beaucoup,
oui,
Benoît.
Oui, c'est vrai.
Et de la pianiste Yoshiko Moriya, ainsi que mes amis de l'orchestre de chambre des Hautes-Alpes, que j'ai le bonheur de conduire depuis 6 ans déjà, et les amateurs amateurs de rareté offenbachienne pourront y savourer avec délectation des extraits du Songe d'une nuit d'hiver, une pièce très rare qu'il avait créée pour la Comédie française, et puis de la Boîte au lait, mais aussi des Brigands, des Contes d'Hoffmann et bien d'autres délices. À dans un mois, mon cher Benoît.
Et non, pas dans un mois, parce que vous revenez d'abord la semaine prochaine pour notre hommage spécial au cher Pierre-Marcel Onder.
C'est vrai.
S'achevait Tenez-moi Benoît, une émission préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Cédric Chatelus, réalisation Sophie Pichon. Et on se retrouve donc samedi prochain pour cet hommage à notre ami Pierre-Marcel Onder, récemment disparu. Je serai en compagnie de Jacques Lefebvre, Serge Laïc, Jean-Christophe Kay. Bon week-end à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.